Europe 1.
Europe 1.
16h-18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui chaque après-midi frictionne vos zygomatiques tout en lustrant vos neurones. Deux heures de découvertes palpitantes, rieuses et même parfois gourmandes.
Ah ouais.
Et oui, saluons d'emblée Eva Rock, ma précieuse complice. Alors, bien
bonjour,
remise
Mathieu.
Eva.
Bien remise de quoi?
Je crois qu'il faut le signaler à nos auditeurs, il faut être transparent.
Non.
Hier soir, j'avais organisé chez moi un petit apéro intimiste
oui.
avec Eva et Olivier Pouls, notre expert gastronomique. Autant vous dire qu'ils ne sont pas arrivés avec du quinoa et de la ceinture. Hein.
Alors moi si.
Ah oui.
Mais pas Olivier Pouls.
Je vous explique un truc, non. Le pâté en croûte n'a rien à voir avec le quinoa. Tout à l'heure, Eva, vous nous direz ce qu'on regarde et ce qu'on zappe à la télé et sur les écrans ce soir. Mais d'abord, accueillons notre invitée vedette aujourd'hui. C'est vraiment la rencontre de deux voix. D'un côté, celle de la soprano niçoise Eva Rock.
Arrêtez de m'embêter comme ça.
Et là, son fameux concert dit des 12 Spritz, enregistré hier soir sur mon balcon. Et face à elle, l'autre grande soprano française, Patricia Petitbon. Bonjour Patricia Petitbon.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous cet après-midi. On va évoquer et écouter votre sublime dernier album, L'amour, la mort, la mer. Mais dites-nous d'abord, comment vous allez, comment vous sortez de cette période étrange qu'on vient de vivre? Vous avez chanté à votre balcon comme Eva, mais en mieux?
Non, moi je n'ai pas vraiment chanté. Non, je n'ai pas chanté parce que peut-être, enfin en ce qui me concerne, moi j'ai préféré rester un petit peu en retrait. Et puis me poser des questions, quoi, surtout.
Et alors, attendez, Patricia, c'est intéressant d'un point de vue technique. Vous dites que vous ne chantez pas, vous n'avez pas chanté de manière, genre, vous n'avez pas chanté devant votre caméra pour les gens de manière un peu professionnelle, mais est-ce que vous avez chanté pour vous? Est-ce que à votre niveau, on n'est pas obligé de chanter pour entretenir la machine?
Écoutez, vous savez, dans la vie, il faut savoir aussi s'arrêter, c'est-à-dire que j'en ai profité évidemment pour déchiffrer ou défricher, comme vous voulez, des grandes partitions, ouais. des grands ouvrages. Donc ça, c'était assez comique parce que je l'ai fait par téléphone avec des amis pianistes, ce qui n'était jamais arrivé. Je crois que s'il y avait eu un troisième luron pour entendre ça, il se serait dit, mais qu'est-ce que c'est que ce capharnaüm de bruit, de son, d'hurlement? Parce que c'est un petit peu ça. Donc en fait, ça m'a servi à me poser, à plutôt lire, on va dire, lire de la musique, à prendre du temps, si j'avais envie, sur deux pages, sur une page, c'est plutôt ça. Mais chanter, à proprement dit, je n'en avais pas forcément l'énergie, ni la volonté, parce que le chant, c'est quelque chose aussi de magique, il existe grâce aux autres, en fait. On est là pour partager avec les autres, et partager avec le corps aussi, avec la vibration. Donc, c'est pas du tout la même chose que d'être derrière un écran, ou, voilà. Et donc, je me suis dit, il faut se taire, il faut rester en silence aussi, parce que j'avais pas vraiment le choix, et puis j'ai fait d'autres choses que de chanter.
Alors, vous allez nous raconter ce confinement qui vous a servi visiblement à prendre du recul, Patricia Petitbon. Je vous présente juste nos deux premiers concurrents pour le titre de chroniqueur du jour, puisque vous allez le découvrir. Le monde du journalisme est encore plus compétitif que celui du chant lyrique. À ma gauche, en studio, un journaliste expert en économie, un peu moins en musique, puisqu'alors que j'écoutais votre dernier album dans l'Open Space tout à l'heure, je me régalais. Il est passé à côté de moi. Et il m'a dit...
Ça vaut pas la compagnie créole. Hein.
Oh. Bonjour Axel
de Tarlet. Bonjour Mathieu.
C'est
un horrible montage.
Ben ouais, mais il faut tout pour faire un monde.
Mais oui, il faut Patricia Petitbon et la compagnie créole. C'est quand même bizarre d'associer les deux. Axel, vous êtes notre expert économique. Et aujourd'hui, vous allez nous raconter comment un géant comme Renault peut être aujourd'hui au bord de la faillite après une crise qui finalement n'a démarré qu'il y a 3 mois.
Mais oui, parce qu'il y a 2 ans pile, vous vous souvenez, on était très fiers de voir que notre petit Renault était devenu le numéro 1 mondial de l'automobile devant les Japonais, devant les Américains. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il est en danger de mort. Donc la question est, comment passe-t-on du Capitole à la Roche Tarpéienne?
Oh là là.
Là, je crois que j'ai déjà gagné plus plein de faire la chronique.
Vous marquez des points. Face à vous, Axel, vous pensiez peut-être naïvement, comme moi d'ailleurs, qu'après avoir atteint son apogée dans les années 70, le mouvement hippie avait progressivement disparu, en tout cas c'était marginalisé, que les derniers babacool étaient plus soft que leurs aînés. J'ai découvert hier que non, quand Farah Kasri a déclaré...
Le caca de baleine, c'est super écolo.
Bonjour Farah Kasri.
Ah bah super, comme entrée de matière, c'est génial.
C'est pas mal, hein. Vous êtes notre consultante animalière, vétérinaire de renommée mondiale, ou en tout cas francilienne.
Non, voilà.
Et aujourd'hui, vous allez enfin nous expliquer pourquoi il est quasiment impossible de choper une mouche.
Ah oui, c'est vrai qu'avec son petit corps velu, ses yeux exorbités, son agaçant bourdonnement, la mouche est assez énervante et encore plus quand elle s'approche de mon dessert. Donc malgré son apparence d'insecte fragile, c'est vrai que c'est quasi impossible de pouvoir l'attraper et je vous expliquerai quel est son secret tout à l'heure.
Le secret de la mouche avec Farah Kessri, le programme est donné, l'équipe est sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc la célèbre soprano Patricia Petitbon qui nous accompagne cet après-midi pour nous présenter son dernier album « L'amour, la mort, la mer ».
S'asseoir tous deux au bord des flots qui passent, le voir passer, tous deux s'il glisse un nuage en l'espace.
Alors Patricia Petitbon, vous allez nous raconter le concept de cet album qui est très original. Juste avant, une question de culture G, puisque c'est un peu le thème de notre émission. On dit que vous êtes soprano coloratour. Qu'est-ce que ça veut dire soprano coloratour?
C'est un adjectif qu'on peut coller même au ténor, même au basse, basse coloratour, ouais. Ténor coloratour. C'est-à-dire que ce sont des voix qui ont une certaine agilité, ouais. Qui vocalisent, qui surfent pas mal, on va dire, avec des ribambelles de notes, de guirlandes de notes. Voilà, si je peux faire ça très simplement.
Alors, parlez-nous de cet album dont on vient d'écouter un petit extrait, L'amour, la mort, la mer. C'est une forme d'odyssée, on se croirait un peu dans l'Odyssée avec Ulysse.
Oui, c'est ça. Et alors, c'est vrai que c'est assez étrange parce que c'est venu avant le confinement.
Oui.
C'était une réflexion un peu. En fait, c'était une réflexion sur le temps. Et donc, c'est vrai que c'est un disque où la musique prend son temps. Vous voyez, on est dans un autre temps, un temps peut-être de lenteur. Et de réflexion. Et donc, oui, c'est venu de mon intérêt pour l'Antiquité et pour justement les héros de l'Antiquité qui étaient des héros qui n'étaient non pas jugés par rapport à leur statut social, mais à leur choix, à leur façon d'embrasser leur destin, leur vie. Et finalement, c'est la part de héros en chacun de nous. Et donc, je trouve que c'est vrai que c'est une drôle de coïncidence puisque, parce qu'on le voit, aujourd'hui, il y a eu quand même pas mal de héros qui se sont révélés dans l'épreuve, parce que c'est toujours dans l'épreuve que se révèlent, je dirais, les personnalités, le courage, ou pas d'ailleurs. Et c'est assez étrange. Donc c'est vrai que je fais beaucoup référence à Ulysse dans la présentation de ce disque, mais ça mélange, c'est un mélange de deuil, de toutes choses, de relations amoureuses, à travers aussi des textes poétiques et puis des compositeurs contemporains, pas forcément contemporains, une façon, en tout cas un mélange entre la musique savante et aussi populaire, comme John Lennon, j'ai repris la mélodie de je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. My Love. My Love. Tout le monde connaît cette mélodie. Oh My Love. Et donc on a fait un arrangement avec Laurent Levesque. Alors c'est un disque où il y a aussi un accordéoniste. Il s'appelle David Venitucci.
C'est très éclectique.
Manoff, ma pianiste, un joueur de cornemuse aussi, Ronan Le Barce. Donc on a mélangé aussi les sonorités. C'est un voyage sonore.
C'est un voyage sonore, c'est un ovni cet album, magnifique. C'est un peu moi ça a été la bande originale du confinement. C'est vrai qu'en plus avec ce rapport au temps.
Vous êtes gentil.
C'est vraiment très beau. Patricia Petitbon, comme je sens qu'Eva va commencer à nous faire des vocalises pour vous prouver qu'elle aussi peut monter très haut, je vous propose qu'on enchaîne assez vite. Non, Eva. Eva, vous m'aviez promis. Non, Eva, voilà ce que je craignais. Vite, enchaînons. Patricia, restez avec nous.
Europe 1.
À suivre, c'est un classique des beaux jours. On lit peinard dans un transat et une foutue mouche se met à tournoyer sournoisement au-dessus de notre élégant Bob Ricard. On essaye de la choper.
Oh putain!
Sans succès et on devient vulgaire. Inutile de s'énerver, Vac, à quoi qu'il arrive, c'est biologique. La mouche est toujours plus rapide que nous. Pourquoi? Explication avec notre veto Farah Kessri, à tout de suite.
Europe 1, 16h-18h,
l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Elle fait partie de nos chroniqueuses ayant le plus souffert du confinement, 2 mois et demi sans voir son Alain Sirou. coincé avec sa femme, légitime s'entend, au fin fond du Perche. Autant vous dire, sans aller jusqu'à vous faire un dessin, que les retrouvailles ont été torrides.
Rien que sa langue, c'est énorme.
Oui, on va passer là, Sarah. Ça, c'est votre jardin secret, celui d'Alain.
Voilà, j'ai même oublié à quoi il ressemblait.
Ce qui nous intéresse aujourd'hui, Sarah, c'est de comprendre pourquoi un être aussi basique que la mouche peut échapper à la tapette à mouche que lui oppose un être aussi complexe et raffiné que l'humain.
Raffiné, ça, c'est pas toujours le cas.
Mais bon. Je parlais pour moi.
Bon, alors, par rapport à la mouche, c'est vrai qu'elle a quelques avantages. Hein, même c'est vrai que par rapport à la taille, c'est un insecte, c'est insignifiant par rapport à nous. Et pourtant, c'est vrai qu'elle a des petits pouvoirs, notamment au niveau de ses yeux. Alors, contrairement à l'araignée, elle n'a pas des yeux derrière la tête, mais c'est vrai qu'elle a des énormes yeux qui sont de chaque côté de sa tête. Vous voyez à quoi ressemble une mouche.
Oui.
C'est comme si nous avions des yeux de 70 cm de diamètre chacun. Donc vous imaginez, c'est vraiment assez énorme. Et ces deux énormes yeux lui donnent une vision panoramique de quasiment 360 degrés. Donc ça, c'est un sacré avantage quand même.
Ah, c'est un premier avantage, mais qu'est-ce qui explique sa rapidité ?
Alors déjà, chaque œil est constitué de 800 facettes. Donc chaque facette est autonome. Cette facette capte les rayons lumineux qui sont émis par l'environnement, les réfléchissent à l'intérieur de son œil vers la rétine. Et ces 800 facettes, c'est comme si ça lui permettait de mitrailler les alentours comme un appareil photo en mode rafale. Vous voyez, c'est des yeux qui vont capturer jusqu'à 400 images par seconde. C'est 10 fois plus que ce que peut capter la rétine humaine. Et ça lui donne de sacrés détails pour reconstituer une image complète.
Mais pour traiter toutes ces données, il lui faut aussi un sacré cerveau. Est-ce qu'elle en a un de cerveau, la mouche ?
Ah bah oui, heureusement qu'elle en a un. Et dans le règne animal, vous savez, on a le cerveau dont on a besoin, celui des mouches.
J'ai pris le cerveau qu'on mérite.
Ultra efficace.
Oui.
Celui des mouches
est
ultra
pas
efficace.
Pardon, excusez-moi.
Mais j'adorerais être. Je suis comme une mouche entre vous deux là ce matin. Donc en fait, le cerveau de la mouche, il est effectivement ultra efficace, notamment pour la vision en plein vol. Je rappelle que les mouches sont des diptères, ce sont des insectes qui ont deux ailes, capables de voler à une vitesse de 8 km/h, c'est équivalent à un petit footing humain. Et en plein vol, elles peuvent croiser le chemin d'une abeille qui va voler à 25 km/h ou d'une libellule qui, elle, est une sacrée... c'est un sacré insecte qui peut voler jusqu'à 70 km/h. Et pour éviter qu'il y ait une collision en plein vol, eh bien, le traitement de la vision par le cerveau est ultra rapide chez tous les insectes volants. Alors, ce cerveau est capable d'analyser un nombre incalculable d'images par seconde en temps réel. Et pour que ça reste cohérent et compréhensible par la mouche, il y a une sorte de ralentissement des images pour apprécier chaque détail.
C'est génial.
C'est comme s'il voyait un peu au ralenti. C'est ce qui est vraiment
c'est
incroyable.
C'est pour ça qu'elle m'échappe toujours, la mouche.
Mais oui.
Elle me voit au ralenti.
Bah oui, elle peut anticiper un peu. Elle prépare son plan de fuite et en moins de 100 millisecondes, elle optimise la position de ses pattes, la direction. Elle sait hop, qu'il faut préparer ses ailes pour décoller loin de cette main qui va s'abattre sur elle. Donc oui, elle est vraiment équipée pour qu'on ne puisse pas l'attraper.
Ouais, j'avais une dernière question, mais notre réalisateur qui n'aime pas les animaux m'a dit « Non, tu n'as pas le temps. » Merci, Farah Kasri. je crois, Eva, que vous aviez une nuance à apporter à l'exposé de Farah.
Mais oui, non, mais oui, mais quand même.
Mais c'est important d'être précis.
Oui, non, mais quand même,
Merci,
on est d'accord.
Ouais, on est d'accord, c'est plus clair.
Europe 1.
J'aime les invités. Néanmoins, attention, quand je pratique l'autodérision, merci de ne pas rire trop fort non plus, ça en devient parfois désobligeant. Petit message qui s'adresse notamment à mon compatriote, l'écrivain Joël Dicker, qui était avec nous hier en ligne. Et bon, je suis content que ça l'ait fait rire, mais... La Suisse moderne a donné au monde des arts deux stars ayant réussi. Moi, bien sûr. Je suis pas non plus le dernier des tocards. Bon, bref, aujourd'hui, la grande soprano Patricia Petitbon rira, mais moins fort.
Europe 1, l'équipé sauvage, 16h-18h. Europe 1, 16h-18h sur Europe 1, l'équipé sauvage, Mathieu Noël.
En écoutant la perfection de sa voix, je suis comme le général Schpanz dans Papy fait de la résistance.
Wow.
Admirable, sa voix est limpide comme du cristal. Elle a brisé mes flûtes.
Patricia Petitbon, merci d'être avec nous cet après-midi.
Jacqueline Maillan, elle chante bien.
Oui.
Elle chantait très très haut, elle avait cassé ses flûtes. Vous êtes une star du chant lyrique, une grande soprano, mais pour autant dans un milieu classique qui paraît souvent peu ouvert à la fantaisie ou pas de côté, vous cultivez-vous une grande liberté? Est-ce que le mot libre, c'est le mot qui vous résume le mieux, Patricia Petitbon, et qui est à l'image de cet album d'ailleurs dont on parle?
Bah, l'art a une certaine liberté. C'est vrai qu'on peut dire beaucoup de choses. Il est pas du tout dans la politique. Il peut gêner même la politique, hein, l'art. C'est pour ça qu'il faut toujours rester peut-être loin de la politique aussi, je sais pas. Enfin, en tout cas, on a besoin de la politique, évidemment, pour faire de l'art. On le voit bien. On fait partie de la société, hein, nous, les artistes.
Oui,
et aussi
là,
un peu sur le côté.
Mais oui.
Non, mais c'est important de le dire, parce que souvent, on a l'impression, vous savez, qu'on vit d'amour et d'eau fraîche.
Oui, oui.
Mais on travaille dur depuis souvent très jeune. Pour aussi en vivre, c'est pas juste, il y a pas juste une idée philosophique derrière, mais il y a aussi ce sont des métiers, hein, il y a toutes sortes de métiers.
Oui, on s'en rend compte cruellement.
Pour répondre à votre question, je crois que ce qui est important, c'est d'être entier, hein, c'est de ressembler à ce qu'on est finalement, et on peut amener la fantaisie. Et aussi des choses non académiques, dans des salles très académiques. Hein, moi, ça m'arrive souvent, c'est ce que j'ai souvent fait. Et ça marche bien, parce que si vous êtes en accord avec la musique et ce que vous êtes, eh bien, forcément, c'est accepté aussi, je pense. Donc, en fait, c'est vrai qu'on peut dire, c'est pas un milieu forcément étriqué, il y a beaucoup de choses dans la musique classique. C'est aussi la façon dont on la présente. Elle n'est pas si étriquée que ça. Il se passe beaucoup de choses, hein, en ce moment. Et il y a beaucoup de nouvelles générations aussi qui ont différentes cultures, voyez, que ça soit populaire ou pas. Je pense qu'on n'est pas resté aux années 50, et en même temps, on n'a même pas besoin de critiquer les années 50 ou 60, on vit dans notre temps. Donc c'est surtout la laisser respirer et puis la laisser, comment dire, accessible à tous sans vouloir la ringardiser, en fait. Si je puis me permettre.
Patricia Petitbon, justement, vous parliez de la nouvelle génération. Est-ce que être artiste lyrique était une évidence pour vous?
Mais non, parce qu'en fait, moi, je me suis jamais positionnée. En fait, j'ai jamais pensé que j'allais être artiste, entre guillemets. Je sais même pas si ça a vraiment du sens de dire être artiste. Je crois que c'est surtout un combat de chaque jour, parce que il y a vraiment la force et la faiblesse, surtout avec la voix.
Mais oui.
Il y a cette humilité, il y a beaucoup d'humilité, comme avec la vie. Donc, quand on parlait du confinement, et puis l'humilité aussi face à la mort, parce que c'est ça, nous les chanteurs, on ne cesse que de... En fait, comme les grands cétacés, vous voyez, les baleines et tout, on respire, on expire, on est en apnée, on est toujours avec le souffle. Donc, en fait, on dit toujours la vie ne tient qu'à un souffle. Et donc, je pense que vraiment, moi, ce que m'a appris la musique et côtoyer aussi les autres et toutes sortes de publics, toutes sortes de personnes, toutes sortes d'horizons, de cultures, de pays, ça m'a appris l'humilité, savoir rester à sa place. Savoir agir avec son instinct et surtout apprendre de la vie, quoi. Il n'y a pas de surpuissance.
Oui.
Et je crois que c'est ça la grande leçon de la musique, en fait. Ça apprend à se placer tout simplement dans la vie par rapport aux autres.
Et Patricia Petitbon, comment vous avez vécu personnellement ce confinement? Moi, par exemple, je suis un grand hypochondriaque, j'avais peur de tout le monde, j'avais peur de tout. Est-ce que vous, en plus tout le monde s'en fout si je perds ma voix, machin, vous êtes une grande chanteuse, est-ce que vous aviez peur particulièrement d'attraper ce virus ou
non.
Pas du tout?
Non, je...
Vous n'êtes pas comme ça?
Non, je ne suis pas comme ça, en fait... Peut-être parce que j'ai dû déjà faire preuve de sang-froid dans ma vie par rapport à des épreuves, comme beaucoup de personnes. C'est-à-dire que Je n'ai pas de peur, on va dire, mortifère. Je me suis protégée, j'ai protégé mon enfant, voilà, j'ai su faire les gestes barrières, respecter en tout cas ce que demandait le gouvernement. Je crois que c'est très très important ça, de respecter les autres, de savoir gérer son corps. Parce que moi, ce que j'ai pu voir aussi dans la vie de tous les jours, c'est que les gens n'ont pas conscience de leur corps. Et donc, c'est très compliqué.
C'est très vrai, oui.
Vous voyez ? Parce que nous, évidemment, les chanteurs, les musiciens, on a ce confinement en nous-mêmes déjà du corps où il faut en prendre soin, il faut faire attention. Par exemple, quand vous êtes enrhumé à l'opéra, vous n'allez pas embrasser votre collègue.
Ou
quand vous avez une gastro non plus. Il y a cette barrière, il y a toujours eu cette barrière, mais par respect aussi d'une troupe, de ne pas diffuser un virus, enfin, si je parle de façon très concrète. Mais non, je pense que c'est un moment où il faut garder son sang-froid, mais on est tous inégaux face à cette je veux dire, révolution intérieure. Parce que quelque part, il faut le savoir aussi, c'est que moi, j'ai la conviction qu'on a changé d'époque. On a vraiment changé d'époque. C'est une épreuve, c'est une grosse épreuve humanitaire et puis dans le monde qui pose une question de sens. De savoir comment on va maintenant, dans les décennies qui vont arriver, comment nos enfants, nos futures générations, nous allons être capables de nous intriquer à ce nouveau monde et qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que à part, je veux dire, toute cette consommation de masse et tout ce discours évidemment sur l'économie, puisqu'il faut une économie, mais comment intelligemment nous allons nous regrouper pour nous aider à survivre, en fait. Parce que c'est un petit peu ça aussi, la question.
C'est la question, Patricia Petitbon, mais je vous suis sur le consumérisme. Il faut consommer moins, mais si je peux me permettre, il faut quand même consommer un tout petit peu, ne serait-ce que pour
mais
acheter votre album.
Non, mais ce que je veux dire, c'est comment on respecte aussi notre environnement. Alors, le problème de toute cette crise, c'est évidemment toute cette précarité, la précarité, les tragédies, voilà. C'est quand même, on est face à quelque chose d'extrêmement complexe et une machine qui s'est mise en route depuis des siècles aussi, notre façon de fonctionner, notre société. Donc, c'est vrai que, vous savez, le problème aussi, c'est que quand on est confronté, même par rapport à la mort, quand on est confronté directement dans ses cellules, face à une épreuve, quand il faut agir, je pense que les choses se règlent différemment, parce qu'on est obligé de faire face aux défis, en fait. Donc il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier ce défi, cette épreuve. Il va falloir en tirer peut-être quelques leçons, mais moi, vous savez, je suis juste un petit grain de sable, comme vous.
Un petit grain de sable, grande voix. Patricia Petitbon, merci beaucoup d'avoir été avec nous un petit peu cet après-midi. L'amour, la mort, la mère est disponible. Bientôt, des concerts quand on pourra se retrouver tous ensemble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi, Patricia Petitbon.
Merci à vous.
Europe 1.
C'est quelqu'un qui fait systématiquement le pari de l'intelligence. En soi, c'est beau, mais est-ce judicieux face à quelqu'un comme moi ?
J'ai décidé de ne pas miser sur votre sexe, mais sur votre cerveau.
Miser plus sur mon cerveau que sur mon sexe, voilà un pari audacieux. Axel de Tarlet, récidive, avec un sujet sur Renault aujourd'hui. Comment le titan de l'automobile a-t-il pu se retrouver en 3 mois au bord de la faillite ? Votre concession Renault va-t-elle disparaître ? La réponse après téléphone, Hygiaphone sur Europe.
Demande à
Mediaphone, c'était Téléphone sur Europe 1, une chanson qu'Axel de Tarlet
connaît par cœur.
Nous a fait en
ça,
stéréo.
C'est mon époque.
Ça, c'est vraiment toi.
Ah, ok.
Et même avant. L'équipe sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Quand j'ai créé cette émission, il y a bientôt un an, j'ai réuni mes disciples, mes journalistes, et je leur ai dit que mon but était de proposer 2 heures de bonne humeur intelligente, c'est-à-dire où le rire ne se ferait jamais au détriment de l'info. Grâce à Axel de Tarlet, on peut dire que le contrat a été rempli.
Parce que j'ai décidé, comme je vous l'ai dit, de ne pas m'adresser à votre zizi, mais à votre cerveau et à votre...
Bah alors moi, je me sens tout de suite exclue parce que vous venez de dire, mais c'est pas grave.
Si, les filles aussi ont un zizi.
Alors, je pense que ça s'appelle une zézette plutôt, Axel.
Ah bon ? Oh oui, bon...
Axel, on l'a senti dans cet extrait. Vous êtes l'homme des grandes questions. Et une des plus grandes questions qui se posent à l'économie française en ce moment, c'est quid de l'avenir de Renault ?
Non mais c'est frappant de voir qu'il y a 2 ans, c'était exactement il y a 2 ans, on était très fiers de voir...
On fanfaronnait.
Ah oui, le petit Renault de Billancourt qui devenait, avec Carlos Ghosn, le numéro 1 mondial de l'automobile, devant le géant General Motors, devant Toyota, devant les Allemands de Volkswagen. Alors c'était une alliance, c'était, on additionnait Renault plus Nissan plus Mitsubishi. Et ça faisait numéro 1 mondial avec plus de 10 millions de voitures vendues. Et 2 ans plus tard, eh bien, on aide Renault parce que notre ministre nous explique que Renault est en danger de mort. Donc comment passe-t-on de ce statut ?
Oui, je ne comprends pas.
Eh bien justement, l'un explique l'autre, c'est ça la beauté. C'est qu'en fait, Carlos Ghosn avait un petit peu un ego et il faisait la course au volume. Il voulait absolument décrocher ce pompon, ce titre, ce trophée du numéro 1 mondial.
Et ce n'était pas forcément stratégiquement intelligent.
Eh bien c'est-à-dire qu'il a poussé les volumes, il a poussé les volumes. Donc on s'est retrouvé avec des usines en surcapacité. Il privilégiait les volumes à la valeur. Et donc, dès février, avant même le Covid, déjà, je me souviens, Jean-Dominique Sénard, l'actuel patron de Renault, disait on a trop d'usines, des usines qui tourne à 80%, à 70%, à 60%. Donc Renault déjà parlait de fermer des usines, parlait de fermer de Flins notamment. Et ensuite est venu le Covid. Alors déjà que Renault était en surcapacité, donc maintenant ils sont en méga surcapacité. Et donc d'où cette annonce aujourd'hui de 15 000 suppressions de postes dans le monde, dont un tiers en France. Chez Nissan également, hein, l'usine de Barcelone va fermer. Alors et donc... Et c'est la bonne chose, je vais dire, dans ce malheur qui arrive. C'est que vous savez, il n'y a rien de tel quand on se prend des baffes que d'un peu d'humilité et de se mettre autour d'une table. Souvenez-vous, Renault et Nissan se faisaient la guéguerre suite à Carlos Ghosn. Et bien là, comme tous les deux, Nissan vient d'annoncer une perte de 5,7 milliards. Hein, donc c'est énorme. Et donc comme et Nissan et Renault vont mal, vous savez, il n'y a rien de tel que d'être vaincus ensemble pour se serrer les coudes et dire on va renaître ensemble. Et donc quelque part, ce malheur en stéréo qui arrive à Renault et à Nissan permet à l'alliance de se reconstituer. Et c'est vrai qu'ils annoncent que d'abord ils vont se partager le monde, ce qu'ils ne faisaient pas véritablement. Alors ils appellent ça leader-follower. Et ils vont se partager les technologies. Et donc on va voir. Et alors ils vont vraiment faire maintenant, si vous voulez, des systèmes de plateforme où vraiment, c'est-à-dire qu'on aura le même châssis et il y a juste l'extérieur qui sera différent. L'esthétique. Selon que c'est une Renault ou selon que c'est une Nissan. Donc on espère que de ce malheur, que de cette double baffe, naîtra une résurrection de Renault. Comme quoi, et c'est une leçon à méditer, l'arrogance ne mène à rien.
Il est fou, hein.
Je pensais à Carlos Ghosn.
Oui, on a bien compris.
Pour répondre à la question plus prosaïque que je posais tout à l'heure, est-ce que ils vont fermer des usines potentiellement, mais potentiellement des concessions ? Ça, c'est dans les tuyaux ou pas ?
Alors, je pense pas que ce soit la nécessité immédiate, parce que là, ils ont des millions de voitures sur les bras.
Il faut les vendre.
Il faut absolument les vendre.
Oui, c'est plutôt ça.
Et donc, pour les vendre, il faut avoir des concessions.
Merci beaucoup, Axel de Tarlet. Un dernier mot ?
Zizi.
Merci.
Europe 1.
C'est bientôt le soulagement pour Eva Rock, orpheline depuis bientôt 3 mois du quiz de Culture G qui l'opposait à l'invité qu'elle adorait. Mardi prochain, on remet ça, j'espère que vous n'avez pas trop perdu la main. Top ! En 1979, quand elle accède au poste de Premier ministre de Grande-Bretagne, quelle est la spécificité de Margaret Thatcher ?
Elle a la tête d'anglaise.
Non, elle est la première femme à occuper le 10 Downing Street. Bon, c'est pas grave, vous avez encore 3 jours pour vous préparer. En attendant, on va se réécouter vos meilleures prestations. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Elle avait tout pour devenir une championne du quiz de Culture G. De par ses fonctions de rédactrice en chef à Télé 7 jours, elle avait même eu l'occasion d'aller assister aux enregistrements de Questions pour un champion. Et elle avait passé toute une journée dans le bureau de Julien Lepers.
J'ai jamais vu autant de drogue de ma vie. Hein.
Est-ce qu'elle en a tiré profit ? Non. En 163 confrontations, elle n'a gagné que 7 fois contre l'invité. Qui a donc gagné ? combien de fois, Eva ?
Pardon, je ne vous écoutais même pas.
163 confrontations.
Oui.
Vous n'avez gagné que 7 fois contre l'invité. Donc l'invité a gagné combien de fois, Eva ?
Bah, 150 fois.
156. Oh la vache. Bon, justement, essayons de comprendre ce qui s'est passé, d'analyser ce fiasco. Et ben, on a besoin pour se reconstruire. Voici le best-of du quiz. Je le disais tout à l'heure, s'il y a une chose que je déteste, ce sont ces émissions prévisibles qui vous proposent des quiz idiots sur une thématique trop souvent associée à l'invité. Vous comprendrez donc que je vous propose à présent, cher ami Newton, un quiz sur le Japon. Ah, fascinant Japon ! Vous serez opposé à Eva Rock, la geisha du vieux Nice. Le principe est simple, c'est un vrai faux, vous répondez chacun votre tour. Chaque bonne réponse vaut un point. On commence avec vous Amélie. La célèbre voiture japonaise Toyota appartient à la famille Toyoda, avec un D. Vrai ou faux ?
Vrai.
C'est la bonne réponse. Sakichi Toyoda, né en 1867, est le fondateur de Toyota. Akio Toyoda, actuel président de la marque, est son petit-fils. Mais savez-vous pourquoi ils sont passés de Toyoda à Toyota ?
Ah ça non.
Parce que, eh bien figurez-vous que c'était plus esthétique quand on écrivait la marque. Alors je ne sais pas si vous écrivez le japonais.
Je vois
pourquoi.
Vous voyez, je suis d'accord.
Et nous aussi, puisqu'on
oui. C'est là que c'est vrai.
Eva Rock, si vous allez au Japon et que vous trinquez, évitez de dire chin-chin, parce que ça veut dire sale type. Vrai ou faux ?
J'ai peur qu'en fait la réponse...
Bon, n'essayez pas d'analyser, donnez-nous une réponse.
Je dirais que c'est vrai.
Eh bien c'est faux, Eva.
Ah mince,
eh bien c'est
ça
faux.
Veut dire
par
quoi ?
Contre, évitez quand même de dire chin-chin.
Oui, ça veut dire que ça désigne le sexe du petit garçon.
Voilà, donc si vous voulez pas finir en tôle, évitez de dire chin-chin. Attention, cette fois une question, trois propositions, tout le monde joue. Au Japon, les compagnies de train ont une étrange coutume. 1. Elles offrent des tickets gratuits aux usagers qui prennent en photo les fraudeurs. 2. Elles proposent aux voyageurs de défier certains contrôleurs au judo. Ou 3. Elles font un procès aux familles des personnes qui se suicident en se jetant sous les trains. Que répondez-vous ?
3.
La 3. Elles font un procès aux familles des personnes qui se suicident sous les trains.
Et moi, j'aurais dit la 1.
Elles offrent des tickets gratuits aux usagers qui prennent en photo les fraudeurs. Non, oui. Alors ça, c'est en Suisse, je vais vous dire. Enfin, dans les bus suisses, en tout cas. Oui, c'est vrai. Si, dans les débuts de la TPG, les transports publics genevois, on vous incite à dénoncer votre voisin. Et non, au Japon, c'est beaucoup moins horrible que ça. On fait des procès aux personnes qui se suicident en se jetant sous les trains. Bonne réponse d'Amélie Nothomb. Incollable. Incollable sur le Japon. Eva Rock, au Japon, depuis juin dernier, une loi interdit de pratiquer le karaoké en état d'ivresse. Vrai ou faux ?
Je dirais faux, c'est impossible de faire un karaoké sans être ivre.
En ce qui vous concerne, mais n'universalisez pas votre...
Pour tout le monde. Non, je dirais que c'est faux.
Bon, vous avez raison, c'est faux. Par contre, un décret a été voté pour interdire la conduite d'un drone en état d'ivresse.
Ah bah
visiblement,
oui, évidemment.
Ça commence
évidemment,
à poser
évidemment.
Des problèmes.
Bah oui.
Amélie Nothomb, c'est la dernière question qui va vous départager. Si on vous apporte un plat, alors, ikizukuri, pas si je le prononce bien, ça signifie que ce que vous allez manger est encore vivant. Vrai ou faux ?
C'est vrai.
Oh, incollable, Amélie Nothomb.
Oui.
Alors ça, c'est incroyable, c'est une méthode de cuisine très ancienne. On voit pas ça par chez nous. C'est généralement du poulpe, de la carpe ou du homard. On la coupe et on la cuit juste ce qu'il faut pour le maintenir en vie. Ce genre de plat est très controversé en Occident. Étonnamment, il est même interdit en Allemagne. Jean-Philippe.
En même temps, on mange des huîtres.
Eh oui, c'est vrai.
Oui.
C'est vrai.
C'est vrai, on mange des huîtres, mais elles sont vivantes, les huîtres.
Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai. Et vous en avez déjà mangé, Amélie Nothomb ?
Bien sûr, souvent.
Et c'est très bon ?
Honnêtement, je ne trouve pas que ce soit meilleur.
D'accord.
Et personnellement, je n'aime pas beaucoup cette méthode.
C'est une curiosité.
Oui.
Le résultat de ce quiz, les amis en régie, je crois que c'est 3 à 1 pour Amélie Nothomb qui triomphe magistralement. Bravo, Amélie.
Europe 1.
Pendant le confinement, vous avez pris sur vous. Mais là, maintenant, faut pas trop vous chercher. La limite des 100 km vient d'être levée. Alors la prochaine fois que vos ados vous saouleront avec leur boucan, alors que vous essayez péniblement de télétravailler, vous pourrez enfin leur dire ce que vous rêvez de leur dire depuis des mois.
Ah, on va arrêter de se la culer douce. Il va y avoir de la mutation sur les fronts de l'Est. Peut-être pire.
En attendant, mettez-les déjà devant un écran, ça les calmera un peu. Les conseils écran jeunesse d'Eva arrivent juste après une nouveauté. Kiss Me in the Morning, extrait de la nouvelle série événement de Netflix, The Eddie sur Europe.
It never strays away from right.
C'est un nouveau titre extrait de la bande originale de The Eddie, la nouvelle série de Netflix supervisée par Damien Chazelle. Le titre « Kiss me in the morning », embrasse-moi le matin, après quand même t'être levé les dents.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
C'est toujours mieux.
C'est toujours mieux.
Ouais, même dans la journée. Hein.
Même dans la journée, c'est vrai. Il faut y penser de se laver les dents dans la journée aussi. Eva, bientôt 3 mois que vous nous livrez chaque jour aux alentours de 5h-10.
Je vous embrasse, on me lave les dents.
Alors ça, je pense que nos auditeurs n'ont pas besoin de le savoir. Mais Eva, donc bientôt 3 mois que vous nous livrez chaque jour aux alentours de 5h-10, un guide pour parents au bord de la crise de Noël. Une sélection de programmes destinés aux enfants et adolescents qui explique la teneur particulière de vos rêves en ce moment. En effet, puisque à force de visionner des dessins animés, il vous arrive malencontreusement de rêver
d'un vampire, d'un homme préhistorique, d'un pompier.
Et ce n'est pas ça, puisque même si ça ressemble à des catégories sur YouPorn, c'est en fait simplement que vous avez trop regardé Vampirou, La Famille Pierre à Feu et La Patte Patrouille.
Exactement.
Encore une petite fournée de
allez, une
de
petite fournée,
jeunesse.
Ouais, parce qu'ils sont de retour. La famille part et de retour menée par Hélène alias Elastic Girl. Alors les enfants, ils savent très bien de qui je parle. Les Indestructibles, dont Canal Plus diffuse ce soir à 21h05 le deuxième volet des aventures. Alors Hélène, la maman, elle vient d'accepter un nouveau job pendant que Monsieur Bob reste à la maison pour s'occuper des enfants. Et si l'extrait qui suit vous rappelle vaguement une situation vécue récemment, c'est normal.
Au revoir chérie.
Je m'occupe des enfants, pas de problème.
Qu'il faut faire, papa. Le prof dit qu'on doit utiliser cette méthode.
Je connais pas cette méthode. Et pourquoi il change les maths? Les maths, c'est les maths. Les maths, c'est les maths. Les maths, c'est les maths.
Allô?
Coucou, chérie.
Comment vont les enfants?
Très bien, super.
Super, super. La maison est en feu quasiment. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, tout le monde va devoir mener une mission de front et combattre les méchants. Et en matière de super-héros, le petit dernier du clan, bébé Jack-Jack, va montrer toute l'étendue de ses pouvoirs et c'est pas triste. Alors au menu, de l'action, de l'humour, des rebondissements et encore de l'action. Pour ce film d'animation des studios Pixar, côté voix, vous reconnaîtrez sans doute Gérard Lanvin dans le rôle du papa et Louane dans celui de la fille. Alors je vous le recommande ce dessin animé parce qu'au-delà du film qui met en scène ses super-héros, il s'agit surtout de parler de la famille et comment chacun parvient à se faire sa place au sein du clan. Et les parents vont m'adorer, je pense, Mathieu, parce qu'il s'agit du plus long film d'animation du studio Pixar, soit 1h58. Oh. Et c'est à voir sur Canal Plus ce soir. Voilà.
Oui, mais pour les plus petits, on va quand même pas les laisser 2 heures devant l'écran.
Surtout pas, jamais de la vie. 12 minutes, c'est parfait. C'est le temps du dessin animé qui est disponible sur France.tv, Les As de la Jungle, Drôle d'Oiseau. Alors, qu'est-ce que c'est ce dessin animé? C'est un crossover, une rencontre, on va dire en français, entre deux films d'animation, soit Les As de la Jungle et La Chouette et Compagnie. Tout débute dans la jungle avec Maurice, un manchot tigre, Miguel, le gorille bleu, Gilbert, le tarsier ou encore Patricia, la romantique chauve-souris.
Il n'y a vraiment rien d'aussi beau qu'un lever de soleil pendant la saison des pluies. Comme c'est romantique, hein Gilbert?
C'est juste scientifique, Patricia. La Terre est ronde, elle tourne sur elle-même, c'est pour ça que le soleil se lève le matin et se couche le soir.
C'est pas possible que la Terre est ronde, souris grognon. Parce que sinon, animaux qui habitent de l'autre côté, eh ben eux tombent.
Mais c'est la gravité qui les fait tenir au sol, Miguel. Oh, s'il te plaît, Maurice, explique-lui-toi.
Alors, justement, va débarquer depuis l'autre bout de la Terre, grâce à une expérience de téléportation, la chouette, un drôle d'animal, indestructible, impassible, énervante à souhait, qui vole après une petite chenille qu'elle cherche à choper à tout prix. Je me suis régalée pendant ces 12 minutes, d'abord parce que le dessin, qui est issu de deux studios français, est très très réussi. L'anthropomorphisme fonctionne parfaitement. Et puis, la rencontre entre les deux univers semble vraiment couler de source, c'est plein d'humour, et les enfants vont apprendre de nouveaux mots, comme vous venez de l'entendre, par exemple la gravité, comment fonctionne la foudre aussi. C'est pas l'objectif premier de ce film d'animation, mais vos rejetons vont repartir de devant l'écran en ayant quelques mots de vocabulaire supplémentaire. C'est pas plus mal.
Merci beaucoup Eva. Quand vous avez préparé cette chronique, est-ce que vous avez pensé aux phrases que je pourrais extraire éventuellement et détourner et mettre dans un autre contexte?
Vous pensez que je m'amuse à faire ça parce que vraiment...
J'aime bien cette phrase. Je me suis régalé pendant ces 12 minutes.
Voilà, c'est vous qui venez de la dire.
Je pourrais effectivement réutiliser. Merci beaucoup.
Moi aussi.
Eva. Je suis pris à mon propre piège.
Oh, vous êtes bête.
Une première page se tourne dans l'équipe est sauvage, les amis. La grande compète des journalistes d'Europe 1. Restez avec nous. Deux nouveaux concurrents vont s'affronter. Seront-ils aussi pointus et compétents qu'Axel de Tarlé, notre expert éco, jamais pris en défaut, ou presque?
Il faut que les salariés deviennent des actionnaires. Donc,
c'est un modèle qui est répandu dans beaucoup de pays, ça.
Voilà une bonne colle.
La prochaine fois, je les écrirai, les relances.
À tout de suite.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.